Bonsoir à tous, amateurs de macabre et de lugubre. Bienvenue dans ma crypte. Je suis Dan et vous écoutez Creepy Story. Voici enfin votre dose de gore et d'épouvante pour la semaine. Au menu de ce soir, eh bien justement, il sera question de menu, dans cette histoire sanglante qui finira bien pour notre personnage principal. Enfin, quand je dis bien, tout est relatif. Ce conte va vous laisser un goût amer dans la gorge et vous fera voir la vérité sur ce que vous pouvez mettre dans votre bouche sans en connaître la provenance. J'ai intitulé cette horrible fable « Une recette secrète ». Bonjour, je m'appelle Harlan. Je suis né le 9 septembre 1890 à Henryville, dans l'état de l'Indiana. Nous étions trois enfants et mon père, Wilbur David, était un homme doux et affectueux. Nous vivions à l'époque dans une ferme de 80 acres, jusqu'à ce que mon père se blesse gravement après une chute. Il a ensuite travaillé comme boucher à Henryville, pendant 2 ans. Je n'avais que 5 ans en 1895 quand il nous a quittés. Ma mère, Margaret Ann, était aide-ménagère. C'était une fervente chrétienne. Elle était assez stricte et nous mettait toujours en garde contre les méfaits de l'alcool, du tabac et des jeux d'argent. Après la mort de mon père, elle a quitté son emploi pour travailler dans une conserverie de tomates. Elle y travaillait la nuit. C'est moi qui devais prendre soin de tenir la maison pendant son absence, en préparant le repas pour mes frères et sœurs. J'ai appris petit à petit les techniques culinaires. Et j'ai développé une véritable passion pour la cuisine. Ma mère s'est remariée avec un riche fermier producteur de denrées alimentaires. On est parti s'installer en banlieue d'Indianapolis. J'ai pas supporté de vivre avec ce père de substitution qui ne voulait pas de moi. Alors, je suis parti dans le comté de Clark. Après, tout est allé très vite. J'ai été tour à tour ouvrier agricole dans une ferme, payé $15 par mois, conducteur de tramway dans la ville de New Albany, dans l'Indiana, et en 1906, je me suis engagé dans l'armée américaine en tant que simple soldat. Je suis parti 1 an à Cuba faire mon service militaire. À mon retour, j'épouse Josephine King, à Jasper, en Alabama. Elle me donnera 3 magnifiques enfants. On a fini par divorcer en 1947, elle et moi. J'étais, selon ses dires, trop mou pour elle, pas assez animal, pas assez sûr de moi, et lâche. Tant pis pour elle, je suis comme ça, c'est mon caractère. Du coup, je suis retourné dans l'Indiana. Là-bas, j'ai travaillé comme vendeur d'assurance à Jeffersonville. Puis j'ai lancé ma propre société de bateaux à vapeur sur l'Ohio. J'ai été nommé secrétaire à la Chambre de commerce de l'industrie de Columbus, où j'ai rencontré l'inventeur de la lampe à carbure. Suite à de mauvais placements, je fus ruiné. Pour sortir la tête de l'eau, j'ai pris un emploi de cheminot à l'Illinois, Central Road, société des chemins de fer du centre des États-Unis. J'ai toujours aimé bouger. Ne jamais rester dans une ville trop longtemps. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Corbin, dans le Kentucky, près des montagnes Appalaches. Je suis tombé amoureux du coin, et il se trouve qu'une station-service Shell était en vente, pour une bouchée de pain en plus. J'ai réuni toutes mes économies pour l'acquérir. Il y a eu un bon début, beaucoup de gens s'arrêtaient pour prendre de l'essence et mon petit business était très florissant. Et puis est arrivée la Grande Dépression. Et là, les affaires ont diminué, drastiquement. J'étais à 2 doigts de fermer la station. Un soir, je me suis installé à l'extérieur pour manger un petit truc que je venais de me cuisiner. Un couple de passage s'est arrêté pour mettre de l'essence dans leur voiture avant de finir leur trajet. Ils avaient faim, alors j'ai partagé mon humble repas. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'ils m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais mangé un repas aussi bon depuis longtemps. Depuis ce soir-là, j'ai décidé de servir des repas aux automobilistes et aux routiers de passage. Je leur ai fait des spécialités du sud des États-Unis. Comme du jambon, de la purée de pommes de terre ou encore des biscuits. Comme je n'avais pas de restaurant, je servais mes clients dans mon petit appartement à l'arrière de ma station-service. De plus en plus de clients arrivèrent pour venir manger mes plats. Ils ne prenaient même pas d'essence. Tous venaient par le bouche à oreille. Un des responsables de Shell est venu un jour pour me demander d'arrêter de faire à manger pour les clients et de me concentrer sur la vente de carburant. Il m'a fait un long discours en me menaçant à la fin. Il voulait fermer la station-service si je ne faisais pas ce qu'il me demandait. J'étais furieux. Lorsqu'il est parti, je me suis remis au fourneau pour préparer le repas du soir pour mes clients de passage. Le lendemain, le type de chez Shell est revenu et il était encore plus méchant que la veille. Il m'a insulté, me disant que je le prenais pas au sérieux. Puis il est allé dans la boutique et m'a pris toute la recette du jour et de la veille. Il a prétexté que c'était pour combler la perte de chiffre d'affaires pour la vente d'essence. J'étais épuisé de ces derniers jours et j'ai craqué. Il s'est approché de moi et, les yeux dans les yeux, il m'a dit que j'étais un moins que rien, que je devais quitter la station sur le champ, qu'il allait me faire remplacer dès demain. Et plein d'autres trucs encore que je n'écoutais plus, mon cerveau s'étant mis en veille. Machinalement, ma main droite, indépendamment de ma volonté, attrapa un hachoir qui était posé sur le plan de travail près de moi, et dans un geste puissant, elle planta le tranchant de la lame dans la gorge de l'abruti en face de moi. Il s'arrêta net, et ses yeux s'agrandirent, sa bouche s'ouvra vulgairement, et un flot de sang noir jaillit de son cou pour arroser mon visage. Je n'ai pas vraiment ressenti beaucoup de choses sur le coup, mais la chaleur du sang sur ma peau m'a apaisé. Drôle de sensation, vous me direz. Ensuite, ma main droite retira le hachoir de la gorge de l'homme et la planta de nouveau dans son crâne, envoyant un peu partout dans la pièce des morceaux d'os et de matière grise sur les murs proches de nous. Les yeux de l'homme se révulsèrent et du sang coula de ses orbites. Puis, tel un pantin de chiffon, il tomba au sol et continua de se vider sur le calage noir et blanc de la pièce. J'étais toujours dans cette transe spectaculaire, sans pouvoir faire le moindre geste, ni pousser le moindre cri de terreur malgré la scène épouvantable qui se jouait devant moi. Au bout de 10 minutes, je repris mes esprits. Je me suis mis à penser que j'étais foutu. J'étais bon pour la chaise électrique. La seule chose que je pouvais faire pour m'éviter ça, c'était de me suicider, pour ne pas subir la honte dans les yeux de ma nouvelle femme et de mes enfants. J'ai préparé une corde et je me suis installé dans la réserve de pneus, attenante à la station-service. J'ai pris un stylo et une feuille et j'ai écrit un mot pour ma tendre et chère Claudia, que j'avais rencontrée quelques mois auparavant. Un testament pour lui montrer la détresse qui était mienne. J'ai écrit « I killed this fucking cunt ». J'ai tué ce putain de connard. J'avais le bout de papier dans mes mains et j'étais là assis sur une caisse de bouteilles de soda vide qui devait me servir de marche pour quitter ce monde. Je n'avais plus rien à présent, plus rien à quoi me raccrocher. C'est à ce moment précis que j'ai revu les yeux de Claudia et son visage angélique. Et je ne sais pas pourquoi cette vision m'a redonné foi en moi. Je ne voulais pas la laisser seule. Je ne voulais pas que mes enfants ressentent ce que j'ai ressenti le jour de la mort de mon père, le vide qu'il nous a laissé. Alors je me suis repris en main et la première chose à laquelle j'ai pensé fut de me débarrasser du corps. J'ai mis un tablier et je lui ai retiré le hachoir de la tête. Ensuite, je l'ai découpé en très petits morceaux pour le disséminer un peu partout autour de la station-service. Les coyotes feront le reste. J'ai enterré les os et les cheveux à 3 km de chez moi. Lorsque je suis retourné à la station-service, après mon funeste ménage, il y avait plein de clients qui m'attendaient pour que je leur prépare un de mes succulents plats. Malheureusement, je n'avais plus de matière première pour mes préparations. Plus rien, à part des sacs de viande que je venais tout juste de découper. Peut-être que ce serait une bonne façon d'écouler cette viande qui m'a fait tant souffrir. Alors je l'ai trempé dans du lait et j'y ai rajouté des épices. Ensuite, je l'ai panée dans une chapelure croustillante et je l'ai plongée dans l'huile bouillante pour la faire frire. La friteuse dégagea une odeur à la fois douce et âcre, mais ce parfum mit l'eau à la bouche de tous mes clients affamés. J'ai servi ce soir-là la totalité du pauvre type qui voulait ma mort. Et les gens ont apprécié. Ils m'ont demandé la recette et moi, je leur ai dit que c'était un secret. Que c'était ma recette secrète du poulet frit. Le lendemain, il y a eu 2 fois plus de clients qui voulaient goûter mon poulet, dont ils avaient entendu parler la veille et qui leur avait ouvert l'appétit. Alors j'ai sorti du poulet de mon congélateur et je l'ai cuisiné pour tous les gourmands venus en masse à la station-service. Plusieurs mois plus tard, j'ai construit mon premier restaurant, premier d'une longue liste. Je ne savais pas comment l'appeler jusqu'au jour où j'ai retrouvé le petit morceau de papier que j'avais laissé dans la poche de ma salopette de travail. J'ai regardé ce petit bout de feuille jauni par la graisse et le nom m'est venu immédiatement. J'ai pris les premières lettres de chaque mot important et j'avais les initiales de mon restaurant. Kill fucking count. Tu putain connard. K-F-C. Après tout, nous étions dans le Kentucky et je servais du poulet frit, non ? J'ai fait fortune avec ma recette de poulet frit à ma façon. J'ai du coup ouvert d'autres établissements, un peu partout aux États-Unis. Mon nom est devenu célèbre et le gouverneur du Kentucky, Ruby LaFoon, m'a accordé le titre honorifique de colonel du Kentucky. J'ai perfectionné ma cuisine et j'ai retravaillé ma recette secrète de poulet frit aux 11 herbes et aromates, qui est encore de nos jours utilisée dans mes restaurants. J'avoue avoir de temps en temps réutilisé mon ingrédient de base, lorsque des jeunes cuisiniers, avides de célébrité, ont voulu me voler ma recette. J'ai pu retrouver à chaque fois cette saveur si particulière qui a fait ma renommée. Oui, c'est ma recette. Cette recette secrète qui viendra dans la tombe avec moi. Moi qui n'étais qu'un simple enfant de fermier et qui est devenu le symbole de toute l'Amérique. Une Amérique qui se goinfre et qui avale tout et n'importe quoi du moment que c'est à portée de sa bouche, sans vraiment savoir ce qu'il mange. Oui, j'ai réussi ma vie, je suis devenu immortel dans l'esprit des gens. Immortel et dont on ne peut se passer. Moi, Arlan Sanders. Le colonel Sanders. Tout au long de l'histoire, nous avons pu découvrir des êtres humains qui, par dépit ou par l'appât du gain, ont, sans prévenir, nourri d'autres personnes avec de la chair humaine. Comme par exemple, cette femme qui a été arrêtée après avoir tué son compagnon et avoir cuisiné sa chair dans un plat, servi ensuite à des ouvriers du voisinage. L'affaire particulièrement sordide se déroule aux Émirats. La justice mit du temps à révéler les détails du crime. Une ressortissante marocaine a été arrêtée, soupçonnée d'avoir tué son compagnon à Abu Dhabi. Elle aurait ensuite cuisiné des éléments de sa dépouille avant de servir ce plat atroce à un groupe d'ouvriers travaillant tout près de chez elle. D'après les informations révélées par le journal The National, c'est le frère de la victime qui, s'inquiétant de ne plus avoir de ses nouvelles, se rendit chez la compagne, qui assura de ne pas savoir où se trouvait l'homme, et avoir d'ailleurs rompu avec lui. Mais le frère de la victime remarqua un élément troublant. Il constata la présence d'une dent dans un mixeur. Il alerta alors la police. Les forces de l'ordre expertisèrent la dent et l'ADN parla. Elle appartenait bien à l'homme disparu. La suspecte passa dès lors aux aveux. Oui, elle avait tué son compagnon, dont elle partageait la vie depuis 7 ans. Le mobile du crime serait le souhait de ce dernier de partir avec une autre femme, plus jeune. La meurtrière a alors fait basculer le crime passionnel dans l'horreur. Elle se servit d'un hachoir pour découper la victime avant de passer au mixeur des morceaux de chair du malheureux. Elle prépara ensuite un mets à base de viande humaine, de riz et d'épices. Pour une raison mal définie, elle distribua ce plat sans que personne ne connaisse la nature exacte de ce qu'il y avait à l'intérieur. Placée en détention, elle risque la peine de mort. Mais la palme d'or revient à l'affaire de la rue des Marmousets, également appelée « affaire de la rue de Chamoines ». Aussi connue sous la légende du barbier et du pâtissier sanguinaire. C'est un fait divers criminel qui aurait lieu à Paris au XVe siècle, et dans lequel un pâtissier et un barbier se seraient adonnés à un commerce de pâté à base de chair humaine, au coin de la rue des Marmousets et de la rue des Deux Ermites. La macabre affaire reposerait sur la froide collaboration de ces deux hommes. Le barbier se chargeait d'égorger, de dépouiller et de dépecer les victimes, souvent des étudiants du chapitre de Notre-Dame, et l'envoyait ensuite la chair hachée par une trappe qui débouchait directement dans la cave de son voisin, le pâtissier. Celui-ci en faisait des pâtés. Selon certains auteurs, ces spécialités auraient eu un véritable succès auprès des Parisiens. On a dit même que le roi Charles VI lui-même en était très friand. Le chien d'une des victimes, un étudiant allemand du nom de Alaric, alerta par ses aboiements la maréchaussée et les voisins de la boutique du pâtissier. On découvrit dans la cave pestilentielle les outils utilisés pour démembrer les corps. Les deux hommes avouèrent leur crime et furent brûlés vifs dans des cages de fer. Peu après, en place de Grève, le jour même de la sentence, la légende du Sweeney Todd, passée dans le folklore anglais, rappelle l'histoire de la rue des Marmousets. Sweeney Todd est un personnage de fiction inspiré de faits plus ou moins avérés. Barbier londonien du 19e siècle, il commettait des meurtres froidement et faisait disparaître les corps avec la complicité de sa maîtresse qui préparait des friands à base de chair humaine. Les éléments de cette histoire, meurtre et cannibalisme, ont assuré son succès et sa pérennité. Pour finir en beauté, il y a une légende qui dit que le tueur en série William Lester Suff utilisait des morceaux des victimes qu'il tuait pour confectionner un chili con carne qui lui a valu le chili d'or 6 années d'affilée. Il a commis 12 meurtres de femmes et a prélevé sur elles les morceaux les plus tendres et juteux. Au dire des amateurs de chili qui lui ont mangé, c'était à chaque fois une extase complète, tant le plat était délicat, parfumé et savoureux. Alors, mes très chers amis, avant de vous goinfrer de poulet frit ou de chili con carne et de vous en lécher les doigts de gourmandise, faites bien attention de vous assurer que toutes les personnes qui se sont attablées avec vous au début du repas le sont encore. Bon appétit !Vous venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast a été assaisonné, écrit ou adapté, raconté, enregistré, monté et produit par moi, Dan, via la Sentence Prod. Si mes histoires vous ont plu, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore. N'hésitez pas à vous y abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je tenais cette fois-ci à vous remercier pour tous vos petits messages au sujet de l'anniversaire des 1 an de Creepy Story. Merci à vous tous de me suivre et de me montrer votre passion pour mes histoires sanglantes. Merci pour tous vos commentaires. Merci à Nora, Nosfera Genetics, Xara Molly, Striker 5991, Théosophique, Dead G6D. Vous pouvez aller liker ma page Facebook, Podcast Creepy Story, et me suivre sur Instagram, Dan the Creepy. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.